Au Congrès, après avoir rendu compte à l'Assemblée nationale en permanence du résultat de leur visite au palais de l'Élysée, les commissaires se sont réunis quelques instants dans leur bureau pour un dernier échange de vues. S'étant vite aperçu qu'il ne leur restait à délibérer jusqu'à nouvel ordre sur aucune question, même accessoire, ces messieurs, toutefois économes du temps, ont cru devoir se communiquer à titre confidentiel et sous forme en quelque sorte d'innocente récréation les diverses idées que pouvait leur suggérer leur imagination touchant le cérémonial probable des fêtes prochaines du sacre. La causerie, générale quoique intime, n'a pas tardé à s'animer sous le choc d'un certain nombre de propositions insolites. L'honorable M. de Gavardy, par exemple, s'est écrié tout à coup « Quelque désireux que je sois de maintenir la concorde qui règne par hasard entre nous, je serais charmé d'apprendre quelle sera l'attitude de mes amis de la droite si le gouvernement, par exemple, avait l'intention de contraindre le clergé à participer à cette cérémonie dans la cathédrale. » « Mais en pareil cas, répondit M. Chénelon, nous demanderions que Monseigneur l'archevêque de Paris et ses suffragants ne se rendissent au temple que traînés par la force publique. » Un membre de l'extrême gauche en conciliateur a brusquement interrompu. « Mais afin d'éviter un aussi fâcheux éclat, serait-il pas plus sage d'interdire simplement au clergé l'accès de Notre-Dame ?»« Jamais le peuple français !» s'est écrié quelqu'un. « Ne croira, vous dis-je, à la valeur d'une consécration où n'officierait aucun ministre en habits sacerdotaux ?»« Si l'on proscrit le costume ecclésiastique, » s'est écrié un chevau léger, « j'exige que le laïc le soit également. » À cette hyperbolique motion, une légère rougeur envahit le front de la plupart de nos honorables. « Est-ce qu'à vos yeux, monsieur, la nudité serait seule de mise ?» À ce moment, M. Jules Simon est intervenu. S'il n'y a que cette difficulté, rien n'est plus facile que de la tourner, en priant quelques citoyens de bonne volonté, à défaut des membres autorisés du Conseil, de revêtir les vêtements pontificaux. Alors surtout que nous avons la presque certitude que Mgr Richard se fera un plaisir de mettre sa garde-robe à la disposition de qui de droit. Cette façon imprévue de ménager toutes les susceptibilités a paru si heureuse que M. Chénelon lui-même n'a pas cru devoir en blâmer outre mesure la singularité vu l'urgence. Dès lors, les interruptions se sont entrecroisées avec cette aimable désinvolture, cette bonne humeur, ce nonchaloir de bonne compagnie qui sont l'apanage reconnu de l'esprit français. Et au milieu du désordre général s'échappe un flot de paroles décousues, tronquées, dont voici quelques lambeaux. « Moi, dit là, je ne propose que des salves, tirées par nos meilleurs invalides, » annonce l'aurore de ce beau jour. « Mais il serait même convenable que la rue Legendre se voit vue débaptisée dans la nuit par M. Mesureur. »« Oh, cela va sans dire, mais il est une question plus grave. »« Laquelle, laquelle ? Qui donc placera la couronne sur le front du président ?»« Je m'en charge !» une voix menaçante. C'est trop d'abnégation, et ne serait-elle, se semble, conférée que par un homme dont l'âge, le puissant génie politique et oratoire, les hasardeuses et lointaines entreprises coloniales, enfin l'autorité morale, sont reconnues de tous. Messieurs, occupons-nous un peu des divertissements publics. Et ceux consacrés par l'usage sont-ils pas suffisants ? Sans doute, pardon, c'est donc quelle sera l'attitude des ambassadeurs des puissances étrangères. Mais pourvu que le corps diplomatique soit invité à monter sur les mâts de cocagne, il est permis de compter au moins sur sa neutralité bienveillante. Alors il est décidé que l'on n'ira pas jusqu'à Reims. Non, cela sentirait un peu trop le Moyen-Âge. Contentons-nous de Notre-Dame. Je demande qu'une estrade d'une hauteur inusitée soit réservé aux membres du Congrès. Pourquoi pas un ballon captif ? La droite n'y voit pas d'inconvénient. La gauche non plus, messieurs. Et l'élément féminin, quel rôle jouera-t-il ? Bon, les demoiselles de l'opéra ne pourraient-elles ébaucher un pas sur le parvis de Notre-Dame? Vous allez un peu loin. Mais trop que le patriotisme m'égare. Quant au danger, monsieur le préfet de police, à l'instar de son collègue moscovite, aura passé la nuit dans la cathédrale en compagnie de ses plus fins limiers pour s'assurer que des points fulminants n'auront pas été placés sous le fauteuil présidentiel par des mains intransigeantes. Quoi ? La plus franche cordialité sera de rigueur. À ces paroles, le brouhaha devint assourdissant, au point qu'il est possible de discerner qu'un enchevêtrement de syllabes incohérentes. Cependant, M. Clémenceau, après le café, vers midi, défilé recueilli du cortège, dans Notre-Dame illuminée au gaz, un prône laïque sera débité par le révérend père Loison. La Marseillaise, suppléante au Tédéum surannée, sera dite officiellement à l'orgue par M. Paulus. Quelques cris prophétiques arrachés par le feu de cet hymne, par exemple « À Pékin, à Pékin !» pourront être proférés alors, pour la forme, par quelques membres vénérables du centre-gauche. Religieux spectacle qui, aidé de quelques paroles édifiantes de M. Tirard et Léon Say, ne manquera pas d'opérer de miraculeuses conversions. Le sacre sera terminé par un bon motet au lieu de terme. Et au retour du collège, des reposoirs avec poil à le papa seront dressés de distance en distance. À quoi M. Chénelon ? Et après une sieste due à quelque fatigue, le prince de l'ordre devra, comme le tsar, se mêler au peuple et en partager les jeux. Errer par exemple incognito dans quelque logis ambulant de somnambules extralucides, laquelle ne manquera pas de lui dire « Vous êtes comme l'oiseau sur la branche » ou « Vous allez recevoir la visite d'un homme de campagne » ou « Vous êtes sur le point de partir pour un grand voyage ». Et de retour à l'Élysée, après la marche au flambeau, il pourra s'écrier comme Titus « Ce sac est le plus beau jour de ma vie ». Et le lendemain, quel prestige, quelle résurrection, quelle Pâque fleurie dans tous les cœurs. Voici renaître avec le luxe de la cour, les affaires, le crédit, la confiance, le commerce, les nobles enthousiasmes, la foi, le succès, l'avenir. Tout respire la joie, l'allègement, la force d'un pays qui reconnaît enfin son père. Oui. Puisque, comme l'a dit judicieusement déclaré M. Adolphe Thiers, la France est avant tout centre-gauche. Sur ces touchantes conclusions, messieurs les commissaires se décident à rentrer dans l'enceinte de l'Assemblée. Le Congrès tout entier se réjouissait. Mgr Freppel, fort ému, regrettait au milieu d'un groupe de l'extrême droite que le décret n'eût pas été voté du 10 au 12 juillet. Alléguant la solennité du 14, où, d'après son opinion, il eût été très utile que M. Grévy portât une première fois l'insigne de sa dignité. M. de Fraissinet, Baronnet, semblait peu éloigné de partager cet avis. Dans un groupe formé de M. le duc de La Rochefoucauld-Oudouville, de M. Noirchet et de M. Chesnon, qui venaient de les rejoindre, l'on devisait à voix basse. Au style des sourires, on devinait qu'une joie recueille les animés. Seul M. Jules Ferry semblait distrait, comme si la question lui peu intéressait. Cependant, on lui avait donné à entendre qu'à titre d'homme d'État tout particulier, presque exceptionnel même, il lui serait conféré naturellement l'office quasi-sacerdotal de poser la couronne sur la tête du récipiendaire. Ce nonobstant, il paraissait somnolé. Sur ces entrefaites, quelques objections se sont élevées, non sur le fond, mais sur la forme, entre M. Paul de Castagnac et M. de Baudry-Larson, à propos de cette question jetée soudain par le surprenant M. Colfavru. Mais est-ce la couronne impériale ou la royale que devra cendre M. Jules Grévy ? Une discussion vive s'est engagée à ce sujet. Et les membres de toute nuance de la Chambre se sont tellement passionnés pour cette alternative que chacun considérait comme une sorte d'injure si on ne choisissait pas la couronne dont le symbolisme répond le mieux à ses préférences. Il serait erroné toutefois de supposer que les représentants des divers partis monarchiques aient apporté dans ces débats une arrière-pensée. Mais, comme la discussion s'éternisait, que les esprits semblaient prêts à s'aigrir et que la discorde menaçait de détruire l'entente provisoire de tous, M. Jules Ferry, se réveillant au bruit et mis au fait de l'incident, demanda la parole. Par un de ces traits éblouissants qui attestent le remarquable talent de ce grand politique, il venait de trouver, au rouvrir des yeux, un merveilleux moyen, un terme dont l'énoncé a amené le calme. Il a eu, en un mot, l'idée ingénieuse, acclamée à l'instant, d'introduire dans la loi l'amendement suivant, sous forme d'article additionnel ainsi conçu. Article 4. À défaut de la tiare, le chef de l'État devra porter à tour de rôle tantôt la couronne impériale, tantôt la couronne royale, ce qui donnera satisfaction successivement aux doubles exigences des partis monarchiques sans porter atteinte à la différence des républicains pour l'un ou pour l'autre de ces ornements accessoires. Inutile d'ajouter que la joie s'épanouit aussitôt sur tous les visages, tous les cœurs. Devant cet accord imprévu et dans la crainte qu'un nouvel incident ne changeât l'étrangeté contagieuse de cette union en une zizanie irrémédiable, le président du Congrès a immédiatement proposé et fait adopter, aux applaudissements unanimes, le renvoi de la séance à 9h15. La séance de nuit. Dès 9h, tous les membres du Congrès sont à leur banc, dans l'attente de l'événement décisif sur l'heureuse issue duquel personne n'élève même un doute. Les conversations particulières sont rares et discrètes. Au milieu de ce silence religieux qui plane d'ordinaire en ces sortes de circonstances, M. Maurice Rouvier, chef du cabinet, montant à la tribune, donne lecture du message présidentiel suivant. « Messieurs les sénateurs, messieurs les députés, quelque spécieuses que soient les raisons qui m'ont été présentées au nom de l'Assemblée nationale, au sujet d'une superfétation dans les attributs à ma charge, je ne les ai pas jugées assez concluantes pour me décider à porter une marque décorative qui pourrait laisser supposer au pays une variation inopportune dans mes goûts et mes idées. Que le Congrès veuille bien en recevoir tous mes regrets avec le maintien de ma démission. Le président de la République française, Jules Grévy. » L'étonnement est porté à tel degré que toutes les bouches en restent béantes et qu'à peine s'élèvent quelques cris, inarticulés d'ailleurs au point de déconcerter les sténographes. De telle sorte que celui d'entre eux, à l'obligeance duquel nous devons le communiquer de ces lignes, hésitant à les contresigner, ne croyons devoir livrer que sous toute réserve au public ce document extraordinaire. L'incident final. Le bruit court qu'après le vote de l'ultimatum, la maître ou ceux des maîtres, députés et sénateurs de toutes nuances, impatients d'avoir aussi leur nuit du 4 août, ou tout au moins jaloux de parodier le désintéressement de leur père, putatif, de 89, en faisant abandon sur l'autel de la patrie de leurs prérogatives parlementaires, se sont précipités pêle-mêle d'un commun élan sur le bureau présidentiel pour offrir à l'envi, sinon leur propre démission, du moins celle de leurs collègues. Et la séance a été levée ex abrupto, au milieu d'un enthousiasme d'autant plus indescriptible que chacun essayait en vain d'en chercher le fondement et la justification.